Nerdist.net, Richard Schander.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Herodote.net, l'histoire interdite, révélation sur l'histoire de France. Lorsque la légende dépasse la réalité, on publie la légende. C'était John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance en 1962. Alors vous savez, chaque année, des centaines d'ouvrages reviennent sur des faits historiques avec plus ou moins d'arguments et surfont surtout sur l'actualité du moment. Il en existe cependant quelques-uns qui, mieux argumentés, mieux documentés, mieux étayés même que les autres, finissent par faire résonner en nous une petite voix qui nous dit « Et si finalement il avait raison ?» Et voilà, cet automne, Franck Ferrand sort un ouvrage qui s'appelle « L'histoire interdite » qu'on pourrait qualifier de brûlot contre certains bastions. Alors on a eu envie d'en faire un débat opposant, c'est peut-être un bien grand mot, on verra, Franck Ferrand, historien, à Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Messieurs, bonjour.
Bonjour, Richard.
Et vous m'interrompez quand vous le souhaitez, bien entendu. C'est un véritable débat. Alors, Franck Ferrand, est-ce que c'est vraiment besoin de vous présenter? Vous êtes historien, chroniqueur chaque jour sur Europe 1, auteur à succès, notamment avec votre dernière saga, La Cour des Dames. Je renvoie d'ailleurs les internautes sur Herodote.net, où nous avons fait deux interviews. Vous titrez donc votre dernier ouvrage, L'histoire interdite. Alors j'ai envie de vous demander, interdite par qui et surtout à qui?
C'est un interdit de fait, sinon de droit, qui pèse sur un certain nombre de sujets que l'université, pour la viser directement, refuse généralement d'évoquer. Vous savez, il y a comme ça des sujets qui sont interdits par la coutume, par une forme de tradition. On ne les évoque pas parce que ça ne fait pas bien dans le tableau. C'est le simple fait de les mettre sur la table prouve que vous ne faites pas partie du sérail et que vous n'êtes pas du nombre des historiens qui comptent ou de ceux qu'on peut considérer avec sérieux. Donc c'est exactement le cas des cinq sujets qui sont traités dans cet ouvrage. Lorsqu'on les évoque, lorsqu'on essaie de faire entendre ces vérités-là, eh bien, on passe pour un amateur, au mieux, ou pour je ne sais quel fantaisiste, au pire.
Si on devait changer un regard, si on devait changer les choses, en gros, vous avez cinq sujets dans votre livre, hein, on va y revenir, Alésia, Jeanne d'Arc, Corneille, Napoléon et l'affaire Dreyfus. Si on devait officialiser, si on devait changer d'avis, il faudrait contacter qui aujourd'hui? Président de la République? Quand on voit qu'il y a l'Assemblée nationale qui aujourd'hui se demande si les députés ne doivent pas fournir le programme officiel.
Je crois que précisément ce serait une grave erreur que de vouloir donner un caractère officiel à ce qui doit rester par essence même de l'ordre du débat, de la recherche, de la discussion. Ce contre quoi je m'insurge souvent, et évidemment je le fais plus dans cet ouvrage-là que dans d'autres, c'est la fermeture du débat. C'est l'impossibilité de discuter. Mais la discussion en elle-même doit être défendue en tant que telle. Et n'essayons surtout pas de remplacer une vérité établie par une autre. Essayons plutôt de nous approcher d'une vérité mouvante.
Si je puis me permettre de prolonger un tout petit peu.
Permettez-vous.
Je me permets d'autant que non seulement je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que ce serait même dangereux de s'adresser au pouvoir, quel qu'il soit. Je sais bien qu'ici, quand une chasse d'eau ne fonctionne pas dans ce pays, on fait une lettre à Nicolas Sarkozy. Mais il faut quand même rester raisonnable. Je veux dire, on est dans le domaine de la connaissance. Moi, je suis extrêmement choqué quand le Parlement français
et moi aussi,
décide
si souvent,
du génocide arménien, alors que c'est le fait des historiens arméniens et des historiens turcs. Que c'est un fait de connaissance à établir entre spécialistes.
On est sur les lois Guesso.
Oui, je trouve qu'il il y a une appropriation du fait officiel qui ne relève pas de la représentation nationale. Je ne pense pas avoir élu un député pour déterminer ce qui relève d'un génocide hors de nos frontières. Je ne pense pas.
Mais c'est aberrant, évidemment. Et on a mis là le doigt dans un engrenage très dangereux que les historiens eux-mêmes, et parmi les plus officiels, si je puis dire entre guillemets, ont dénoncé du reste.
Absolument. On est complètement dans le vif du sujet maintenant. Ça me rappelle il y a quelques années, à l'occasion de conférences sur Léonard de Vinci en pleine Da Vinci Code Mania, il y avait une auditrice qui me reprochait de déboulonner un peu la statue du maître. Et encore, c'était que Léonard de Vinci.
Alors, oui, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais vous, Franck Ferrand...
Belle statue.
C'est une belle statue, mais vous, Franck Ferrand, vous vous attaquez aux plus grandes statues, j'allais dire, de notre patrimoine. J'en veux pour preuve, je le disais tout à l'heure, Alésia, Jeanne d'Arc, Molière, Napoléon, Dreyfus, en pleine polémique sur... En pleine polémique sur les sifflets de la Marseillaise, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup
non,
en
non,
même temps?
Non, alors d'abord, ça n'a très strictement rien à voir. J'aurais beaucoup à dire sur l'affaire de la Marseillaise. J'ai été dans la rédaction où je suis, à Europe 1, pour ne pas la nommer, parmi ceux qui ont tout de suite relativisé et ridiculisé d'ailleurs le discours ambiant sur le sujet, mais c'est un tout autre sujet. Pour ce qui est des pseudo-statues déboulonnées, non seulement je ne déboulonne pas ces statues, mais j'essaie plutôt d'ériger de vraies statues. Et pour reprendre les sujets que vous
allez-y,
dites,
concrètement.
Nous avons en plein Jura un site archéologique majeur qui actuellement n'est pas fouillé, et je demande simplement, quand je dis je demande, je relaie la voix de ceux qui demandent qu'on le fouille. Pour ce qui est de Jeanne d'Arc, dans l'ombre tellement extraordinaire, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, j'ai une passion pour Jeanne d'Arc, mais dans l'ombre de Jeanne d'Arc se trouve une reine oubliée, en l'occurrence Yolande d'Aragon, et d'une façon plus générale toute la maison d'Anjou. Je demande qu'un certain nombre d'historiens et de médiévistes se penchent un peu plus sur cette maison d'Anjou et remettent davantage en lumière la figure extraordinaire de Yolande. Pour ce qui est de Corneille, vous avez bien dit Corneille, du reste, et non pas Molière, l'idée n'est pas de déboulonner une statue, celle de Molière, qui d'ailleurs est très sympathique et contre laquelle, personnellement, je n'ai rien du tout. Molière était un homme de théâtre génial, il était un très grand chef de troupe, il était un comédien sans doute talentueux. Bref, ce n'est pas le sujet. En revanche, il s'agit de dresser une immense statue à celui qui aura été le plus grand écrivain du XVIIe siècle en France, et peut-être un des plus grands écrivains de langue française, une sorte de Shakespeare ou de Cervantes à la française, c'est-à-dire Corneille, dont l'œuvre actuellement est particulièrement méconnue. Non seulement l'œuvre officielle, mais l'extraordinaire part officieuse d'une œuvre tellement méconnue. Pour ce qui est de Napoléon, alors là on déboulonne rien du tout, j'essaie simplement de dire qu'il y a probablement un imposteur à sa place dans le tombeau des Invalides et qu'il faudrait enlever ce monsieur gentiment, puisqu'on ne sait pas où est le corps de l'empereur. Pour l'affaire Dreyfus, on est encore alors là, sur un autre sujet, dans un autre registre, il n'y a pas de statue à revisser ou à déboulonner, simplement sur l'affaire Dreyfus, je ne comprends pas qu'on n'ait pas le droit de remettre en cause un certain nombre d'éléments factuels à partir du moment où ça ne touche pas du tout et où ça n'attente en rien à la dimension symbolique et politique de l'affaire en tant que telle.
On vous connaît comme un historien, pardonnez-moi l'expression, un historien habituellement lisse, c'est-à-dire qui ne fait pas de vagues, et là d'un coup, il y a une sorte de virage, à 180 degrés, qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine envie, ce soudain besoin que je comprends que Murès parfaitement de dire haut et fort ce genre de choses et de sortir ce livre.
Ça me rappelle, vous savez, quand j'étais au lycée, j'étais un peu le côté premier de la classe avec ses lunettes, trop sage et trop au premier rang. Et puis j'ai découvert, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, mais j'ai découvert qu'un de nos professeurs d'histoire, en gros, nous racontait n'importe quoi. Et du jour au lendemain, je suis devenu un vrai rebelle. Alors ça a commencé avec les punitions, les cols, les convocations chez le proviseur, etc. Je n'ai pas accepté, tout bon élève que j'essayais d'être, je n'ai pas accepté qu'on nous raconte ou qu'on raconte à mes camarades n'importe quoi. Mais là, sur une autre échelle, j'ai l'impression de revivre un peu cet épisode-là. Donc en fait, si vous m'avez trouvé lisse dans le passé, c'est peut-être que je n'ai pas suffisamment mis en avant les éléments saillants de la personnalité.
Sans que ce soit péjoratif, hein, bien entendu. Une espèce de ras-le-bol ?
Non, pas ras-le-bol, mais en tout cas, une indignation contre le silence que l'on fait, sciemment ou non, peser sur un certain nombre de vérités qui, par ailleurs, dans le sérail dont vous parliez tout à l'heure, sont sinon admises, du moins connues. Donc pourquoi certains auraient-ils le droit de débattre sur la véritable épopée de Jeanne d'Arc ou sur le contenu du tombeau des Invalides, et pourquoi le public, lui, devrait-il gober définitivement le mythe le plus, précisément, le plus lisse et le plus officiel ? Il n'y a pas de raison, à mon avis.
Sur Jeanne d'Arc, je voudrais vous poser la question à l'un comme à l'autre. Est-ce que le fait que, justement, elle soit déclarée sainte ne pose pas la question plus difficile, le fait que ce soit plus difficile d'en parler ?
C'est une question de statut, ça. Avec un T à la fin.
Ouais.
Avec un T à la fin. Pour qu'on ne se fasse pas dans le côté. Il y a un problème de statut. L'histoire de Jeanne d'Arc, c'est une histoire de mythe. C'est un mythe, et typiquement, voilà, l'utilisation à un moment donné de l'histoire, puis ultérieurement, très tardif, d'un personnage forgé en grande partie de toute pièce. En termes de légende, pas de biographie concrète, pour des fins politiques pures et rien d'autre. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, je vais essayer bien évidemment courtoisement et avec beaucoup d'intérêt parler Franck. Il faut faire attention quand vous faites allusion au Stade de France. Il faut faire très attention.
Je l'ai fait sciemment, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi.
Si c'était une provocation, il faut que je la relève.
Alors allez-y.
Je préférais la relever avant. Le problème du Stade de France, c'est un problème d'identité. L'histoire n'est pas un problème d'identité. L'histoire est un problème de connaissance, contradictoire, vivante. Ce qui s'est passé au Stade de France est un problème. On peut débattre, ce n'est pas notre compétence ici, mais qui a trait à l'identité collective. L'histoire, c'est pas ça. Le fait de remettre en cause le site d'Alésia, son emplacement, le fait de remettre en cause, encore que, de mettre en valeur Yolande d'Aragon, ce n'est pas un patrimoine, ça n'atteinte pas à votre identité. Ça atteint à ce que l'on a pu apprendre, et ça atteint à une connaissance. Vous connaissez un scientifique pur et dur, un physicien, un biologiste, un généticien, qui ne remettrait pas en cause sa connaissance à partir d'une nouvelle découverte. Mais c'est exactement le cas en histoire. En aucun cas, on se dirait, tiens, on remet en cause l'identité de sa science ou du pays. L'histoire, c'est un bien commun, mais c'est fait précisément pour avancer. Sinon, c'est fossilisé et vous êtes dans une dictature.
Oui, je vais...
Si je puis ajouter un mot, alors je suis entièrement d'accord. Distinguons toujours mémoire et histoire, c'est fondamental. Oui. Là, j'essaie, moi, de rester précisément dans l'histoire. Et attention, je n'apporte pas ici le fruit de recherche ou de découverte personnelle. Je rends hommage et justice à de très grands chercheurs qui ont vu leur carrière pulvérisée sous prétexte que la vérité à laquelle leur recherche les amenait n'était pas la vérité officielle.
C'est le cas de Berthier, par
exemple. Bah exactement, c'est le plus beau cas.
Voilà, finalement, c'est l'exemple.
Terrible cas. Mais celui de Pierre-Louis, n'est pas. Quand vous voyez Pierre-Louis, personnalité immense, Pierre-Louis, très grand connaisseur, ce très grand auteur. Va, à partir de 1920, se voir fermer toutes les portes. Et il finit par travailler seul, loin de tous, pour essayer de prouver une vérité que personne ne veut entendre. Il en meurt en 1925. Donc, ce sont des gens qui ont... Je crois que le mot n'est pas trop fort. On peut dire qu'en tout cas, pour certains d'entre eux, ils ont donné leur vie pour des vérités, et sans y parvenir. Si je peux, moi, modestement, utiliser les médias auxquels j'ai accès pour essayer d'amener l'opinion à ces vérités-là et à rendre justice à ces gens-là... Eh bien, c'est magnifique. Moi, je suis ravi et j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde.
Je vous comprends. Je vais finir par une dernière provocation avant de rentrer vraiment dans votre livre. Et pardon, tout de suite, d'emblée pour la provocation. En quoi c'est important, selon vous, de connaître, par exemple, le vrai site d'Alésia? Pardonnez-moi, mais je vais prendre deux exemples concrets pour vous faire comprendre ma question réelle. Lascaux 2 et les musées de cire que sont Grévin et Madame Tussaud. En gros, Madame Michu, elle sait très bien qu'elle ne va pas voir la vérité, mais on lui fait comprendre une vérité, on lui raconte une histoire, et elle s'en fiche de savoir que ce ne soit pas la vraie. Pour Alésia, est-ce que c'est important?
Bien sûr que c'est très important. Pardon.
Non, non.
C'est très important parce que l'emplacement qui avait été décidé l'a été pour des raisons éminemment politiques, officielles, étatiques et de propagande pure. Il ne correspond manifestement pas à la réalité historique, et j'espère qu'on le saura très vite. Et donc c'est intéressant de montrer que c'était une contre-vérité et qu'on l'a cru pendant quelques dizaines d'années, y compris dans les manuels scolaires. Voilà pourquoi. On n'est pas dans le musée de cire, on est dans une imposture intellectuelle. C'est quand même un autre enjeu que Madame Michu. On est dans la connaissance.
Mais c'est pour Madame Michu.
Non, alors d'abord méfiez-vous de Madame Michu, parce que moi qui fais beaucoup de conférences un peu partout, on est très surpris, enfin surpris, on est souvent agréablement surpris par le niveau de connaissance, parfois très élevé, de personnes qui sont certes anonymes, mais qui pour autant peuvent être des esprits très fins. Alors évidemment, vous avez aussi l'immense masse des gens ignorants, mais ça, après, nous n'allons pas faire aujourd'hui le procès de l'éducation nationale, c'est un autre sujet. Pour ce qui est d'Alésia, ce que vient de dire Pierre Baron est fondamental, c'est la dimension, j'ai envie de dire, éthique de la question, puis il y a une dimension pratique également. C'est qu'encore une fois, Diodore de Sicile nous dit que l'Alésia des Monts du Bien, celle de César, était la principale ville, la métropole religieuse de toute la Celtique. C'est-à-dire qu'il y a là un site archéologique majeur, probablement le plus important d'Europe, et qu'actuellement on ne le fouille pas, parce qu'on a décidé de continuer à gratter dans les vestiges gallo-romains d'Alice Saint-Reine sur le mamelon du mont Auxois en Bourgogne. Donc il y a une vraie utilité pratique. Le jour où on va creuser là-bas, au milieu de ces 6,5 km d'enceinte cyclopéenne, et qu'on va découvrir des centaines de vestiges celtiques, dont certains remontent à la proto-histoire, et même au néolithique, on va comprendre tout l'intérêt d'avoir enfin ouvert un tout petit peu l'éventail ou le spectre.
Ouais, je vais retenir le terme d'imposture de Pierre Baron, qui est intéressant sur cette question, effectivement, qui est même fondamentale. Alors on va continuer de pénétrer plus avant maintenant dans votre ouvrage et dans les vérités, c'est d'ailleurs le mot que vous employez. Hein,
oui, c'est un peu provocateur. J'ai décidé sur tout ce livre et dans toute cette opération, parce que pour moi c'est bien plus qu'un livre, et d'ailleurs c'est formidable qu'Historia, qu'un certain nombre de, je pense à Canal+, aussi s'y soient associés. C'est plus qu'un livre, c'est une vraie opération de communication. Et dans toute cette affaire, j'ai décidé d'être volontairement provocateur. On verra bien. Après tout, je n'ai pas grand-chose à perdre.
Ça fonctionne en tout cas. Il y a un combat, je vous l'avoue, qui moi me bouleverse profondément parce que, bon, d'abord, j'adhère entièrement et je crois que je ne vais pas être le seul à être bouleversé. Vous savez, quand on qualifie les langues nationales, on les associe très souvent aux poètes ou aux écrivains locaux. Hein. On dit la langue de Goethe pour l'allemand, la langue de Shakespeare évidemment pour l'anglais et pour le français, la langue de Molière. Et là, dans votre livre, il y a une ombre certaine qui persiste, plus qu'il même qui demeure, et comme vous le dites si brillamment, et je vous cite, la biographie de Poquelin n'est pas à la hauteur de la légende de Molière. Qu'est-ce que vous entendez par là, Franck Ferrand ?
Ah ben, la biographie de Poquelin, elle n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire que si vous cherchez, où que ce soit, et là je mets publiquement tout le monde au défi, si vous cherchez des renseignements autres que ceux qui figurent dans la biographie de Grimaret, qui date de 1705, hein, donc de 32 ans après la mort de Molière, et autres que ceux qui sont dans la préface de l'édition des œuvres complètes, qui date d'octobre 1682, c'est-à-dire 9 ans après sa mort, c'est-à-dire des éléments, mais vraiment des bribes, des légendes écrites par des légendes écrites par des gens qui n'ont même jamais rencontré ou connu Molière, vous n'avez rien. Dites-vous que pendant plus de 15 ans de faveur royale, c'est quand même pas rien. La Gazette de France, qui est l'organe officiel de la cour, qui est à la botte, si je puis dire, du roi, ne cite pas le nom de Molière une seule fois. Donc, la biographie de Jean-Baptiste Poquelin, elle reste à écrire. Le problème, c'est que je ne vois pas avec quoi, puisqu'on manque très cruellement d'éléments. Et tout ce que vous pouvez lire, et Dieu sait qu'il y en a des bios de Molière, j'en ai consulté, moi, des dizaines, enfin, en tout cas, plus d'une dizaine. Toutes ces biographies-là, y compris les plus récentes, je suis désolé de le dire, ne font que répéter à l'infini les légendes forgées au début du XVIIIe siècle.
Pour être un peu plus cuistre, on en sait souvent un peu plus sur les comédiens de sa troupe.
Oui, c'est vrai.
Y compris des troupes rivales, qu'on en sait directement sur lui. C'est assez hallucinant, mais si vous faites des recherches, vous trouverez des éléments biographiques sur, non, pas seulement ses contemporains, mais ses propres comédiens, ou des comédiens rivaux, mais extrêmement peu de choses sur un certain Jean-Baptiste Poquelin.
Puisque nous sommes sur Hérodote.net, nous nous adressons à des auditeurs éclairés qui connaissent donc la notion historique en méthodologie de téléologie. Eh bien, nous sommes exactement dans le cas de Molière, dans le cas d'une téléologie flagrante, c'est-à-dire qu'on parle, par exemple, pour les années 1650, de la troupe de Molière. On dit l'illustre théâtre de Molière. Je regrette, dans les années 1650, il y a une troupe de Madeleine Béjart, qui s'appelle certes l'illustre théâtre, dont Molière n'est qu'un des comédiens. Il est d'ailleurs le plus riche de la bande et c'est celui qui vient arrondir les fins de mois de tout le monde. Mais dans la pratique,
mais ça n'en fait pas la troupe.
Mais voilà.
Très bien. C'est pour moi, dans cet ouvrage, c'est pour moi le sujet le plus extraordinaire, dans le sens qu'il est assez incroyable quand on tombe dessus, qu'on n'était absolument pas prévu.
En même temps, sans vouloir me rabaisser trop, je suis loin d'être le premier à le dire. Il y a eu notamment un très bel ouvrage, très complet, remarquable de Goujon et le frère, qui est sorti il y a 2 ans chez Fayard. Si cet ouvrage avait d'emblée reçu l'accueil qu'il mérite, évidemment, je n'aurais même pas eu besoin d'écrire ce chapitre. L'avantage de l'ouvrage de Goujon et le frère, qui s'appelle « Haute Moi d'un doute », l'affaire sous-titrée l'affaire Corneille-Molière, donc chez Fayard, l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il a permis à un certain nombre de personnalités de commencer à se poser la question. Il y a un autre ouvrage majeur, c'est celui de Denis Boissier, qui s'appelle tout simplement l'affaire Corneille-Molière, qui lui n'est pas encore publié, parce qu'il fait 900 pages, il y a 2000 références, et que tous les éditeurs auxquels il l'a présenté disent « Oh non, ça va ennuyer tout le monde ». J'espère qu'en relançant les choses de façon, moi, très grand public, on va permettre que soit enfin publiée cette thèse, ça le mérite vraiment. C'est une somme.
Alors je vais essayer de résumer, de synthétiser en une phrase, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Pierre Corneille, sur cette affaire, hein. Pierre Corneille, l'auteur notamment du Cid, aurait également été l'auteur des pièces de Molière.
Ah oui, ça, oui.
Voilà, donc très clairement, toutes les pièces de Molière.
Toutes les pièces à partir de 1658.
Expliquez-moi ça.
Avant 1658, Molière... j'ai envie de dire produit, parce que je ne veux même pas entrer, je ne veux pas dire écrit, parce qu'on ne sait même pas ce qu'il en est exactement. Mais en tout cas, produit des pièces qui sont des farces grossières, comme le Gorgibus dans le sac, gros Jean Cocu, enfin un certain nombre de le médecin volant, enfin un certain nombre de pièces comme ça qui sont des pièces de tréteau, des pièces de foire si vous voulez, des farces. Il n'écrit que ça, il l'écrit très mal, car ce sont des textes qui sont à la limite du lisible aujourd'hui, même si on apprend encore la jalousie du Barbouillet, par exemple, dans les petites classes à l'école, parce que c'est très accessible pour les enfants, évidemment, mais c'est écrit dans un... C'est faiblissime. Et du jour au lendemain, sans aucune transition, Molière sort L'Étourdi et Les Précieuses Ridicules, qui sont deux des pièces les mieux troussées, les mieux écrites, les plus sublimement versifiées de tout le théâtre français. Sans aucune transition. La seule chose, c'est qu'entre les deux, il est allé passer 7 mois à 100 mètres de chez Corneille, rue de la Pie, à Rouen. Voilà, donc c'est un des nombreux arguments, mais rien que ça, déjà, ça devrait faire réfléchir 5 minutes.
Et même pour en savoir plus, en gros, il faut lire le livre.
Lequel?
Votre livre. Ben,
oui,
votre
le mien
livre.
Ou d'autres.
Parce
d'autres.
Que, non, mais vous résumez remarquablement bien les fameuses sommes dont vous parliez tout à l'heure.
Il y en a un, oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, ça c'est mon apport. Il y en a un qu'il faut lire notamment, c'est celui d'Hippolyte Wouters et Christine de Ville-de-Goyer, qui s'appelle Molière ou l'auteur imaginaire, que avec un point d'interrogation, que je cite évidemment. C'était en 1990, c'est le livre qui a eu le mérite de relancer les thèses de Pierre Louis à une époque où tout le monde les avait définitivement enterrées. Et juste un détail, Richard. Je ne suis pas persuadé que ce soit le sujet le plus fort du livre, parce qu'il y en a, quelques autres qui sont pas mal non plus.
J'ai pas dit le plus fort, j'ai dit le plus extraordinaire, parce que connaissant pas mal d'étudiants en histoire, voire même d'étudiants en littérature, ils sont parfaitement pas du tout au courant de ce genre d'histoire. Et ils ne veulent même pas en entendre parler en disant « mais qu'est-ce que c'est ?»
Vous connaissez Jean-Laurent Cochet, le très grand metteur en scène, 180 mises en scène, le grand moliériste par essence. Il a été convaincu par Denis Boissier. Il a lu ce chapitre de livre, il m'a très gentiment téléphoné en me disant « non seulement je suis convaincu, mais maintenant je suis militant, et si vous avez besoin de mon soutien, il vous est acquis », c'est pour ça que je me permets de le citer, que quelqu'un comme Jean-Laurent Cochet est actuellement à la tête du principal cours de théâtre en France. Or, il passe maintenant 2 heures tous les ans à enseigner à ses étudiants la réalité sur l'affaire Corneille-Molière. Donc, les choses sont en train de changer. Des personnalités comme Bernard Pivot, qui avait fait l'année dernière un très bel éditorial dans le magazine Lire, sont en train, eux aussi, d'évoluer.
C'est en train de bouger.
Oui, alors je vais même vous faire, c'est le scoop du jour, sur l'affaire Corneille-Molière, je suis convaincu que d'ici à 18 mois maintenant, la chose sera définitivement entendue.
Vous allez être convaincu, pardon, clairement.
Oui.
Vous le sentez, parmi vos lecteurs, vous avez des retours parfois quand vous éditez des dossiers comme ça?
C'est une affaire qu'on a publiée, j'allais dire presque 50 ans d'écart, sans faire un jour. Si on se replonge dans les collections d'Historia, qui va bientôt fêter ses 100 ans, on prend 50 ans, 40 ans, et on trouve ça. On trouve cette thèse.
Les foulailles à l'époque, en 57.
Tout à fait. Cette mise en question et ces interrogations plus qu'accentuées, elles font partie de nos colonnes. Alors, c'est pas, encore une fois, vous voyez bien qu'il n'y a pas que les universitaires, parce que là, on n'avait pas vraiment la ligne officielle, si vous voulez. Mais ça a été posé dans les colonnes d'un magazine grand public et non pas savant. Donc, en rien, ça n'enlève le mérite de Franck. Simplement, je pense que c'est une question qui va finir par aboutir. Parce que les coups de boutoir, si j'ose dire, successifs, de thèses, encore une fois, de connaissances qui avancent, on va bien finir par... Je ne dirais pas que c'est une imposture, mais c'est une espèce de romantisme littéraire, Molière.
Voilà, très justement.
J'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Corneille, au moment de sa mort, sur son lit de mort, alors qu'il n'a plus rien à espérer, à attendre, à gagner ou à perdre, il n'aurait pas dénoncé la supercherie?
Mais ce n'est pas une supercherie, non, mais ce n'est pas une supercherie. C'est là qu'il faudrait avoir le temps d'entrer dans les mœurs théâtrales du XVIIe siècle. Qu'un tragédien signe la tragédie d'un autre auteur, ça aurait été une supercherie. Mais que un très grand poète national comme Corneille, avec l'extraordinaire gloire dont il est entouré, dites-vous par exemple que quand Corneille entre dans une pièce, tout le monde se lève au XVIIe siècle, comme pour la famille royale. Il est le grand poète par essence, il est considéré quasiment comme un dieu vivant. Que ce très grand monsieur, qui par ailleurs traduit l'Imitation de Jésus-Christ, ne signe pas des comédies qui pour lui sont des pochades et des règlements de compte, pour parler clair, et qu'il fait jouer par le bouffon du roi, parce qu'il sait que seul Molière bénéficie de la protection suffisante du souverain pour pouvoir aller contre les faux dévots, contre les précieuses, évidemment, il n'a aucun intérêt d'aucune sorte à vouloir revendiquer ces pièces-là. Et je dirais même qu'il aurait eu sans doute honte. Et je ne sais pas s'il pouvait nous parler, je pense que Corneille aujourd'hui nous dirait « mais qu'avez-vous besoin d'aller raconter ça? C'est très bien comme c'est, et laissez sa gloire à Molière et la mienne à sa place ».
Je crois que chacun des sujets mérite une émission spéciale sur Herodote.net. C'est une invitation que je vous lance comme ça. Je disais tout à l'heure la langue de Molière, la langue de Shakespeare, en parlant de l'anglais et du français. Mais c'est assez curieux, mais à 50
je crois qu'il faut s'habituer. Il faut s'habituer à dire la langue de Corneille. Voilà une réforme qu'on peut faire tout simplement.
C'est une des questions que j'allais vous poser tout à l'heure.
C'est pas la plus difficile à faire dans ce pays.
Bien, écoutez, disons que c'est acquis. Mais ce que j'ai trouvé curieux, c'est qu'à 50-60 ans d'écart, on a la même problématique avec Shakespeare. Est-ce que Corneille aurait
pu avoir... Ce n'est pas la même problématique. Shakespeare, c'est très différent même. Dans le cas de Corneille et Molière, c'est une collaboration tout à fait consciente, tout à fait consentante de part et d'autre. Et je dirais même que c'est un jeu qui amuse beaucoup, sans doute, l'un et l'autre. Et celui qui s'en amuse le plus n'est peut-être pas celui qu'on pense, puisque Corneille devait jubiler de pouvoir régler ses comptes à distance avec des personnes qu'il n'imaginait même pas qu'il était derrière. Bon. Dans le cas de Shakespeare, cas très passionnant, et j'aurai peut-être un jour l'occasion de me présenter aussi, on est dans le cas d'un pool d'auteurs qui cherchent une couverture et là, on est quasiment dans l'ordre de la supercherie littéraire, volontaire pour des raisons politiques et de protection. C'est encore une autre affaire. Ce sont des histoires qui sont presque contemporaines et qui sont du même ordre, mais les ressorts sont très différents. Très différents.
Donc, Corneille n'aurait pas pu s'en inspirer.
Absolument
ça
pas.
N'a voir,
ça n'a rien à voir, rien à voir.
À votre avis, jusqu'où l'historien peut aller jusque dans la révision, le mot est un peu fort.
Il peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il peut rétablir une réalité ou il peut contribuer à ce qu'on revoie ce qui n'était pas une réalité. C'est pas seulement son droit, c'est aussi son devoir.
C'est quoi jusqu'au bout? Parce qu'on parlait tout à l'heure des lois Guesso qui empêchent finalement.
Non, c'est autre chose. Les lois Guesso, on est dans l'ordre du politique et du normatif.
Non, prenons le cas par exemple de Napoléon et de son emplacement aux Indes. Autre problème récurrent, autre monstre du Loch Ness de l'histoire, autre débat, je me souviens, je suis trop jeune pour ça, mais que ces questions-là se posaient déjà sous le gouvernement de Pierre Messmer, ce qui ne nous rajeunit pas, surtout pour ceux qui n'ont pas vécu. Tout à fait. Vous avez une façon irréfutable d'aller jusqu'au bout et simple de savoir. C'est d'avoir un prélèvement ADN. La science le permet aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va changer de savoir que c'est un imposteur? Ça va changer de savoir comment il est mort, et qui est mort, et où il est. Et c'est pas un cas anodin, l'empereur. Je veux dire, attendez, quel est le rôle des Britanniques dans cette affaire? S'il n'est pas là, pourquoi n'est-il pas là? Qui a substitué son corps? Ça pose d'autres questions aux historiens, mais comme on s'en parle au commencement, et nous avons là, pourquoi on le fait avec des pharaons? Ce qui n'ennuie personne. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pas avec Napoléon?
Je vous pose la question.
Aux Invalides, parce que c'est un énorme... Attendez, c'est un énorme problème touristique et c'est un camouflé.
Mais voilà,
vous imaginez pas,
c'est un million de visiteurs
moment,
tous les ans.
C'est un million de visiteurs à qui on dit, voilà le tambour de l'empereur, il va falloir assumer ça.
Et vous croyez pas qu'il
y aurait plus de... J'étais ce matin dans un studio d'une grande radio, dans une émission publique. Et donc je raconte ça, et il y a une dame qui vient, je le vois très gentiment, et elle me dit... Mon mari ne va pas être content, monsieur. Alors je dis, ah bon, pourquoi, madame? Et elle ne plaisantait pas du tout, c'était pas de l'humour. Elle me dit, parce qu'hier, il a emmené notre petit-fils sur le tombeau de l'empereur. Alors je vais pas lui raconter ce que vous avez dit ce matin.
Donc vous croyez pas qu'il viendrait au contraire plus s'il savait qu'il y a cette histoire autour?
Peut-être, oui, après tout, pourquoi? Peut-être. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire, ça ne devrait même pas entrer en ligne de compte, cette histoire-là. Là, on est vraiment dans la toute simple et toute voltairienne recherche d'une vérité. Réglons la vérité et voyons par ailleurs un grand nombre de problèmes touristiques. Et ça, je sais, Richard, que c'est un sujet qui vous touche. Il y a énormément d'insuffisances touristiques en France. Nous sommes très mauvais dans ce domaine. Il y aurait beaucoup à faire. Je ne crois pas que dire que l'empereur n'est pas dans son tombeau aux Invalides va changer grand-chose à la question.
On doit pouvoir se rattraper ailleurs.
Oui. J'en suis assez convaincu. Vous me demandiez tout à l'heure, Pierre Baron, si je connaissais un scientifique qui n'irait pas remettre en cause. Mais j'ai envie de vous lire ce que disait Jacques Le Goff il y a quelques jours dans le Figaro, pour ne pas le nommer, le 16 octobre dernier. L'histoire n'est pas une science exacte, mais c'est une science dont les méthodes d'investigation sont faites pour aboutir à la vérité et à l'authenticité. Il terminait l'interview par là, mais il commençait, au contraire, par « il y en a assez de ces pseudo-savants qui véhiculent des idées fausses et qui veulent tout remettre en cause ».
Alors, non seulement, en l'occurrence, je ne me sens pas visé, car je n'ai jamais prétendu être savant, mais je crois qu'il est assez transparent de voir qui M. Le Goff vise dans cet article. les auditeurs d'Hérodote.net le voient encore, à mon avis, mieux que moi. Cet article, du reste, faisait partie de tout un dossier de Figaro qui visait, pour être clair, à défendre l'ouvrage de Colette Beaune, qui elle-même s'inscrit dans les pas de Régine Pernoud et nous écrit, 30 ans après, un deuxième Jeanne d'Arc devant les cochons, hein, c'est vraiment, c'est l'histoire. C'est-à-dire, et ça c'est assez désagréable, que Jacques Le Goff, que je respecte beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer encore récemment, qui est un monsieur merveilleux, veuille défendre la méthodologie historique et explique que l'histoire reste une discipline à part entière et que ça n'est pas parce que c'est une discipline littéraire qu'il faut la banaliser, il a raison de le faire. Mais que Madame Colette Beaune, qui, entre parenthèses, ne cite même pas le nom de Yolande d'Aragon dans l'index de sa biographie sur Jeanne d'Arc, se permette de donner des leçons et veuille à toute force préserver le précaré des historiens médiévistes sur une question où elle voudrait en quelque sorte faire la police, ça je trouve que ce n'est pas bien et c'est aussi contre cette attitude-là que je me suis élevé.
Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je parlais des sifflets de la Marseillaise, c'est parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui aujourd'hui vit une sorte d'inversion des valeurs, en gros on légitime l'illégitime, c'est quand je dis on siffle la Marseillaise, on siffle le drapeau, etc. C'est assez curieux. C'est une société qui se repent des actions passées, la repentance qu'on vit de plus en plus. On a même fait sur l'Hérodote une émission.
Alors déjà, par exemple, ceux qui sifflent la Marseillaise ne sont pas du tout ceux qui se repentent. Hein.
Non, j'ai pas dit que c'était les mêmes.
C'est pas nous, mais
on est bien d'accord. Mais on voit toutes ces actions-là se répéter. Est-ce que c'est pas devenu une mode, alors qu'elle soit bonne ou pas, c'est la question, de contredire l'histoire.
Encore une fois, il n'y a pas l'once d'une histoire
dans
les sifflets de la Marseillaise.
On est dans un cadre.
Évacuons l'humeur et essayons de parler sérieusement.
J'ai dit essayons.
Mais sérieusement, parce qu'on ne peut pas faire l'amalgame de tout avec tout, autrement, ce n'est pas un débat.
Non, la Marseillaise
n'a rien à voir avec l'histoire. La Marseillaise a à voir avec.
On peut faire l'histoire de la Marseillaise, cela dit, c'est passionnant, mais c'est un autre sujet.
Des problèmes d'intégration avec des problèmes de sociologie. Mais certainement pas avec des problèmes d'histoire.
Bien
enfin,
sûr.
Ça concerne une génération qui n'est certainement pas au stade de France.
Alors on évacue ça.
Donc, encore une fois, on n'est pas en 57, on
alors
est en 2008.
Repartons sur la repentance, par exemple. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas une mode aujourd'hui de revenir?
Alors la repentance ne remet rien en cause. La repentance, c'est simplement un changement d'éclairage du politique sur une vérité qui, elle, n'est pas du tout remise en cause, qui est une vérité établie. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un travail d'herméneutique, si je puis dire. Il s'agit d'un travail de recherche qui, encore une fois, n'est pas ma recherche, mais j'essaie de synthétiser au mieux la recherche de gens qui s'y sont donnés. On est dans le domaine, comme l'a très bien dit Pierre Baron, de la connaissance. C'est la différence entre doxa et épistémé, si on veut parler très...
Comme Hérodote,
voilà. L'épistémé, c'est la connaissance, ça suppose un travail itératif d'approche de plus en plus détaillée, et donc des remises en cause qui, pour certains, peuvent passer pour des révisions. La doxa, l'opinion, bah alors là, c'est autre chose, ça mérite d'ailleurs un débat, mais ça n'est pas le même débat, vraiment. Et ça n'a rien. Les histoires de repentance ou de siffler sur le drapeau n'ont rien à voir avec ces questions-là, vraiment.
La question de la repentance, c'est une question qui n'est pas une question strictement historique. La question de la repentance, c'est une posture.
Une posture politique.
Et une posture politique et idéologique. Le terme de repentance est né dans les campus américains. Et il est né au même moment que le politiquement correct. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus parler d'un noir, mais on disait un homme de couleur. Mmh. Et ainsi de suite. On a eu ça dans le giscardisme aussi. On ne parlait plus de balayeur, mais de technicien de surface. Comme on ne pouvait plus changer le monde, on a décidé de changer les noms pour désigner le monde.
Euphémisme.
D'accord. Et on aboutit à des stupidités incommensurables. On aboutit à Bill Clinton se recueillant à Gorée. Alors que les Africains eux-mêmes ont mis à Gorée des plaques pour demander pardon pour le mal qu'ils avaient fait à leurs propres frères. Or, il n'y a pas un esclave afro-américain, enfin, africain, qui soit parti de Gorée pour les États-Unis. Ce n'est pas le bon port. Il peut toujours se recueillir. Mais la repentance tourne au grotesque. Ce qui ne remet pas en cause la souffrance et le phénomène de l'esclavage. Ce qui prouve bien encore une fois, il faut faire attention à ne pas battre sa coule pour tout et n'importe quoi. Sinon, on arrive très vite aux précieuses ridicules, mais surtout ridicules.
C'est bien de revenir au livre. Est-ce que c'est déjà arrivé à votre connaissance, justement, qu'un État dise, effectivement, voilà la vraie histoire, on s'était trompé, voilà la vérité?
En tout cas, là, mon but, moi, si je puis revenir à mon cas, ce n'est pas du tout que l'État dise quoi que ce soit. La seule chose que pourrait dire l'État, et j'espère qu'il le dira, c'est « nous allons entreprendre des fouilles à chaud et crottes ». Mais ça relève de sa responsabilité. Mais pour le reste, je ne demande pas que l'État se prononce sur la question.
Oui,
j'aimerais simplement que, pour le coup, l'opinion, le point de vue des gens évolue. Et peut-être, c'est un paradoxe, mais il se pourrait que parce que cette opinion évolue, un certain nombre de professeurs, un certain nombre de chercheurs, patentés, soient amenés eux-mêmes à évoluer. Voilà.
Mais qui décide des programmes, en fait, concrètement? Parce que c'est eux qui font...
Alors là, c'est l'éducation nationale, ça, c'est passionnant.
Oui, mais attention, c'est un sujet qui n'est pas... C'est pas le sujet. Les commissions savantes qui décident et déterminent les programmes n'ont pas grand-chose à voir avec le fait que l'histoire appartient à tout le monde, y compris à Madame Michu, que vous stigmatisiez, je trouve, un peu vite tout à l'heure.
Mais j'adore Madame Michu.
Et ça lui appartient aussi, l'histoire, en tant que citoyenne. Même si elle ne sait pas grand-chose, c'est aussi son patrimoine. L'histoire, ce n'est pas un problème d'État, encore une fois. Je m'excuse de marteler ça. C'est extraordinairement dangereux quand l'histoire devient la propriété d'un État. Parce que si l'histoire devient un fait d'État, vous n'êtes plus dans un régime de démocratie. L'histoire, elle est à tous les Français. Là, la question est de savoir laquelle l'histoire. Et la question est de dire aux Français, l'histoire change tout le temps. Et la présentation et notre connaissance de l'histoire évoluent sans cesse. Mais surtout, surtout, ne mêlons pas l'État aux questions d'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, les régimes qui l'ont fait ne m'inspirent pas la plus grande des sympathies.
Je comprends. Franck Ferrand, qu'est-ce que vous revendiquez concrètement avec le livre? Si vous revendiquez quelque chose.
Ah ben oui, non seulement je revendique, mais chaque chapitre se termine par un vœu.
Oui.
Donc il y a des vœux. Ben, pour Alésia, j'adorerais qu'on lance des fouilles à Chaux des Crotenay. Pour ce qui est de Jeanne d'Arc, j'aimerais bien que le nom de Yolande d'Aragon soit cité un peu plus souvent. Pour ce qui est de Corneille et de Molière, ce serait merveilleux que les Français découvrent qu'ils ont apporté de la main un immense auteur dont on pourrait découvrir, en dehors même des pièces de Molière, tellement de merveilles, tellement. Et ça, l'histoire de Corneille, et c'était ça l'ambition d'ailleurs de Pierre-Louis, elle est entièrement à écrire. Pour ce qui est de Napoléon, alors là c'est tout bête, on demande simplement que le couvercle du sarcophage de faux porphyre soit levé de 4 cm pour aller faire un petit prélèvement, et qu'ensuite on confie ça à des laboratoires différents et certifiés. Et puis, pour l'affaire Dreyfus, alors là je ne demande vraiment pas grand-chose, ça m'amuserait seulement d'irriter les personnes qui ont décidé une fois pour toutes qu'on n'avait pas le droit de toucher au sujet. Mais ça, c'est mes petits plaisirs personnels.
Je vous sens taquin en ce moment. Bien, messieurs, merci beaucoup. Franck Ferrand, je rappelle votre ouvrage, donc il fera date, je le crois, L'histoire interdite, révélation sur l'histoire de France, chez Talendier, et qui appelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon souhait, plein d'émissions, une émission par sujet.
Et bravo à Talendier, au passage, d'avoir accepté de publier, ouais. Quand tant d'autres éditeurs, qui par ailleurs ont publié mes autres ouvrages, m'ont dit « Oh non, là, c'est un peu embêtant ».
Et toc. Pierre Baron, on retrouve chaque mois votre magazine dans les kiosques.
Et quelques extraits du livre de Franck, qu'il m'a fait l'amitié et l'honneur, vraiment j'en suis ravi, de m'accorder dans le prochain numéro d'Historia, justement sur Alésia. C'est un tout petit échantillon de l'intérêt du livre.
Bien, il faut donc l'acheter et le lire en urgence. Donc Historia, chaque mois dans les kiosques. Merci au Musée de la Poste qui a accueilli cette émission. Messieurs, merci, au revoir.
Merci.